Je sais pas chez vous, mais chez nous, pour dire ce qu'on veut à Noël, on s'envoie des vidéos. Par exemple, mon fils m'a envoyé une vidéo avec des chiots. Ma fille, un concert de sa chanteuse préférée. Mais pour ça, il en faut des gigas. Surtout si je veux envoyer un documentaire sur les Bahamas à mon mari.
Avec le Noël spectaculaire de SFR, profitez de 50 gigas d'internet mobile pour seulement 10 euros par mois pendant un an pour les clients box, puis 25 euros par mois. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Offre soumise à condition, valable jusqu'au 8 janvier 2018 pour toute nouvelle souscription à forfait Power 50 gigas. Prix multipack sans mobile avec engagement 12 mois.
RMC, Motor, le best-of, Jean Lecroix.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce Motor spécial. Spécial pourquoi ? Eh bien parce que nous sommes le 24 décembre, ce soir c'est Noël. J'espère que vous avez été sages, que vous avez envoyé vos commandes au Père Noël et que la livraison sera belle. En attendant, la livraison sur RMC dans Motors, eh bien ce sont les meilleurs moments de la saison. Et parmi ces meilleurs moments, il y a bien évidemment la Formule 1. On va commencer par le tour de chauffe. La parole à Cyril Habitboul, le patron de l'équipe Renault sur ses ambitions pendant la saison. On ira au Grand Prix de Bahreïn ensuite pour la première pole de Valtteri Bottas devant Hamilton et Vettel. On se retrouvera au Grand Prix de Monaco, l'un des plus emblématiques de la saison, avec la pole de Kimi Raikkonen. Et puis le Grand Prix le plus fou de la saison, eh bien c'était en Azerbaïdjan. Écoutez ça, si vous n'étiez pas avec nous sur RMC. On terminera par le Grand Prix de Hongrie, un Grand Prix qui avait vu la victoire de Vettel effectivement devant Raikkonen et Bottas. À ce moment-là, Hamilton n'avait terminé que quatrième. Le tout, c'est dans Motors. C'est le tour de chauffe et c'est maintenant.
RMC Motors, le tour de chauffe.
Cyril Habitboul, le patron de l'équipe Renault F1. Cyril, j'ai envie de revenir sur les moteurs justement. Moi, j'ai toujours trouvé stupide cette règle, notamment des jetons. La bonne nouvelle, c'est qu'on ait rendu un peu de liberté aux motoristes pour travailler.
Oui, les jetons étaient un règlement compliqué au sein d'un règlement qui était déjà très compliqué, qu'on va essayer de simplifier, qui avait pour objectif d'essayer d'accélérer la convergence de la performance et de maintenir des budgets de développement qui soient pas faramineux. Quand on essaye de bouger les choses un peu artificiellement, parfois ça fait patatras. Donc typiquement les tokens, c'était ça. On n'a plus de tokens, on va pouvoir développer. Chez Renault, on a de grosses ambitions. En F1, quand on n'avance pas, on est mort. Et on l'a vu sur le châssis, on en parlera peut-être. Oui. Sur le moteur, on est obligé d'avancer. On avait un bon moteur. Red Bull a été deuxième. On a pris une décision extrêmement agressive, c'est en gros de mettre ce moteur complètement à la poubelle et de faire un tout nouveau moteur. Mm-hmm. On est dans sa phase de développement, donc c'est un pari en particulier pour ce qui s'agit de la fiabilité. En revanche, on sait qu'en matière de performance, il y a de très gros gains à venir cette année, mais même les années à venir. Et on a des ambitions, un, de rattraper Mercedes, mais pourquoi pas de les dépasser. Et avec la roadmap technologique que l'on a sur ce nouveau moteur, on pense avoir la capacité de le faire.
Pour 2017, tu es ambitieux de ce côté-là aussi?
On a pris la décision de peu développer la voiture l'année dernière, puisqu'on savait que ça serait de l'argent gaspillé vu de là où on partait. Maintenant, 2017, c'est une équation complètement différente. Nouveau règlement, nouvelle voiture, première voiture vraiment développée par Renault avec des moyens plus importants. Donc, clairement, plus d'excuses pour ne pas figurer en meilleure place.
Merci beaucoup Cyril Habitboul, le patron de cette équipe Renault F1, et on attend évidemment les premiers essais hivernaux.
RMC Motors, le best-of.
On en parle toujours de ce Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn avec Adrien Tambay qui reste avec moi bien sûr. On va commencer par la F1 et par cette grille surprise. Patrick Bottas, ça fait un moment que tu nous dis qu'il est bon celui-là, et même quand il était chez Williams, qu'il n'avait pas forcément les résultats qu'il attendait, et bien là ça y est, il a déjà décroché une pole.
Oui, il n'avait peut-être pas non plus le matériel qu'il fallait pour pouvoir être en mesure de le faire. Hein. Chez Williams, une équipe qui est un petit peu inférieure à cette équipe Mercedes qui a tellement de victoires maintenant à son actif. Donc, il a entre les mains l'outil maintenant pour vraiment exploser complètement aux yeux de tout le monde.
Eh oui, pour exploser aux yeux de tout le monde. Alors, Adrien, tu l'as fréquenté, justement, ça tombe bien. Toi aussi, tu nous en dis évidemment le plus grand bien depuis le début de la saison. Alors, c'est un garçon discret, si on met un petit coup de projecteur sur sa personnalité, c'est pour ça, lui, il attire pas les feux de la rampe. C'est un peu l'antithèse de Lewis Hamilton, qui, lui, peut pas faire un geste sans qu'on en parle sur les réseaux sociaux.
Oui, ce sont deux individus complètement différents. Je connais Valtteri depuis l'époque de la Formule 3, quand il était déjà managé par Toto Wolff. On était chez Hart Grand Prix, donc l'écurie de Frédéric Vasseur, et c'est un Finlandais, donc forcément un peu calme, pas très exubérant, mais concentré sur son travail et à la fois sérieux, sûrement un peu plus sérieux qu'un Kimi Raikkonen par exemple, et pour le coup il est, je pense, il a un grand talent. Il a toujours été très rapide sous la pluie, toujours très rapide dans les virages rapides, un gros cœur et à la fois voilà, à la fois réfléchi. Donc je pense que c'est pour Mercedes le bon remplaçant pour Nico de Nico Rosberg, et il le confirme.
On va écouter justement ce que Lewis Hamilton pense de cette pole de Valtteri Bottas, son nouvel équipier chez Mercedes. Il a répondu au micro de Louis Hamar et Louis lui a demandé s'il était vexé ou mécontent du fait qu'il n'ait pas réussi à décrocher la pole.
Non, pas du tout. Franchement, mon tour était pas mal. Et puis, je suis très heureux pour Valtteri. C'est un pilote fantastique et il a tout simplement été meilleur. J'ai perdu un peu de temps dans le premier secteur. C'est mon point faible ici. Mais je suis quand même pas loin au final, donc il n'y a pas de raison d'être en colère. J'ai aussi beaucoup de respect pour Bottas. Il travaille très dur et il en récolte les résultats aujourd'hui. C'est agréable de voir que les bonnes choses arrivent aux gens bien. C'est sa première pole position. Il va certainement avoir du mal à dormir ce soir. Ça pourrait être sa première victoire. Et s'il n'y arrive pas ce week-end, il y arrivera plus tard dans la saison, parce que c'est un pilote incroyable.
Ah, c'était une question qu'il aurait fallu poser à Nico Rosberg.
Alors, Patrick, j'allais te faire réagir là-dessus, parce qu'on n'est pas habitué à des déclarations aussi courtoises entre équipiers. Bon, ça fait plaisir. J'espère qu'il est sincère, Lewis. En tout cas, là, c'est du fond du cœur. La première, on va dire. Peut-être que si l'on met deux ou trois comme ça, le temps va changer. Hein, qu'est-ce que t'en penses?
Oui, c'est possible aussi, ça va changer. Mais je crois que tu es dans l'ordre des choses, puisque Valtteri est un énorme potentiel. Quand on a vu sortir Kimi Raikkonen, on l'avait ressenti. Quand on a vu venir Vettel aussi. Bon, là, Valtteri Bottas, il a commencé par Williams. Peut-être pas la meilleure des équipes au niveau matériel, mais il a un manager qui était patron de l'écurie avec
Toto Wolff.
Ouais. Qui était partenaire avec Frank Williams.
Bien sûr.
Et donc, c'est un atout pour lui d'avoir le soutien de Mercedes.
RMC, Monorce, le best-of.
C'est parti. Et Lewis Hamilton a pour l'instant réussi son envol. Il va devoir résister à Valtteri Bottas au premier virage. C'est fait, Lewis Hamilton, toujours en tête. Valtteri Bottas, toujours deuxième, juste derrière son équipier.
Ah, puis il a joué le jeu jusqu'au bout. Là, Hamilton, il s'est laissé totalement décrocher du safety car, quitte à remonter plein pot. Et voilà, on a éteint, mais il va devoir freiner. Non, ça y est, le safety car a quitté la piste. C'est le vrai départ, c'est reparti. Avec une attaque peut-être de Perez sur Vettel tout de suite. Louis.
Il est passé très furtivement devant Sébastien Vettel, Sergio Perez en effet, mais l'Allemand de Ferrari a réussi à reprendre la deuxième position qu'il occupe toujours derrière Lewis Hamilton qui lui ne s'est pas fait piéger.
Radio de Lewis Hamilton.
The safety car and safety car line one. Trust me, it wasn't.
Ah, c'est fantastique, c'est fantastique. C'est l'ingénieur de Lewis Hamilton qui lui dit que c'était chaud au niveau du règlement.
It will not affect the way I race.
Ça n'affectera en rien ma façon de courir. On cherche toujours les points faibles de ses rivaux. Et là, je crois que c'est clair, j'ai trouvé celui de Vettel.
Incroyable, il n'y a pas de calcul, on rase les murs. Et désormais, Bottas, Vettel et Hamilton tiennent en une seule image. La réalisation nous les montre avec beaucoup d'à-propos, parce que ces trois-là vont se livrer une bataille incroyable, alors que Bottas n'a toujours pas renoncé à une deuxième place potentielle. Il vient encore de prendre du temps à Lance Stroll dans le premier secteur. Lance Stroll a tourné en 37-2, Bottas en 36-7.
Alors quelle bagarre, quel effort. Lewis Hamilton qui allume envers le premier secteur, il donne tout ce qu'il a, ça y est, il est à moins d'une seconde maintenant de Sébastien Vettel.
Daniel Ricciardo, lui, est dans le tour du sac, dans le tour de la cinquième victoire de sa carrière de pilote de Formule 1. Il n'était plus monté sur la première marche d'un podium depuis le Grand Prix de Malaisie l'an dernier, et le voilà, le drapeau à damier qui s'abat sur Daniel Ricciardo, l'Australien qui l'emporte. Attention à ce que Lance Stroll va réussir à passer. Bottas devant, Bottas incroyable, Bottas est deuxième, il est passé devant Lance Stroll sur la ligne, incroyable remontée, mais Lance Stroll conserve quand même une place sur le podium, c'est fou, ça a été fou jusqu'au bout.
RMC, Monorce, le best-of.
Patrick, je voulais que tu me parles un petit peu des souvenirs qu'évoque pour toi ce Grand Prix de Monaco. On l'évoque à chaque fois, hein. C'est un Grand Prix hors cadre, très particulier, où le courage des pilotes, la vista, et il y a une espèce d'osmose qui doit se créer avec ce tracé long de 3,337 km.
Il faut arriver à trouver le sweet spot, le point de confort idéal pour aller vite sur le circuit. Bon, si tu l'as, c'est une merveille, c'est du vrai bonheur. C'est un pied fabuleux. Si tu ne l'as pas, c'est plutôt de la haine et de la difficulté permanente.
On va revenir à la grille de départ. Effectivement, tu as écouté tous les pilotes, tu les as suivis. On va écouter évidemment les témoignages que tu as recueillis à leur micro. Et je propose d'ailleurs tout de suite d'écouter un certain Kimi Raikkonen qui exultait, mais vous allez voir ce que c'est, exulté pour Kimi Raikkonen. Voilà, c'est une sorte de droupi. Écoutez bien, c'est au micro de Louis Hamar.
Évidemment, c'est super d'être en pole position, d'autant que c'est la course dans l'année où il est le plus important d'être devant. Je pense que la moitié du travail est faite, mais le défi reste immense. Je veux gagner. et on est en plus très bien placé pour mettre nos deux Ferrari sur le podium. Je suis très content de la voiture, mais il faudra être très attentif, parce qu'ici, une erreur est très vite arrivée.
Quel déferlement d'énergie, Louis. Comment as-tu pu résister à cette joie communicative?
Tu as vu que dans la traduction que j'ai faite, j'ai essayé de mettre autant de cœur. Hein.
Oui, mais je trouve que tu as trop d'enthousiasme.
Oui, trop d'enthousiasme par rapport à lui. Non, il en faudra davantage encore pour voir Kimi Raikkonen sourire. Oui. Peut-être que s'il l'emporte tout à l'heure, aura un sourire. Peut-être même qu'on aura un cri de joie dans la radio, sait-on jamais. Non, en tout cas, fidèle à lui-même, Kimi Raikkonen ne s'est pas vraiment épanché. D'ailleurs, juste après la qualification, quand il a répondu aux questions encore sur la piste, des gens de la FOM, et bah pareil, il avait le casque à la main, il regardait ailleurs comme si rien ne s'était produit, comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'avait pas réussi une grande performance. Pourtant, en 1:12.178, Saint-Paul est tout simplement le record du circuit de Monaco.
Absolument, Louis, et c'est même la 17e pole position de sa carrière de pilote de Formule 1. La dernière, tenez-vous bien, fallait remonter à 2008 et au Grand Prix de Manicourt, le Grand Prix de France. Ah, c'est pas pour vous, hein, rassurez-moi. Bon, j'entends une sirène derrière, vous avez pas fait un truc qu'il fallait pas. Bon.
Pas encore.
Bon, le compteur est bloqué à 20 victoires pour le moment, Adrien. Allez, on va pas se mouiller, on va pas faire de pronostic. Est-ce qu'il peut l'emporter, Kimi? Sa voiture est large, hein, très très large, elle va l'être encore plus là tout à l'heure.
Ah, il peut, Jean-Luc, bien sûr, il a le métier, il a la vitesse, en tout cas ce week-end, il a l'air de faire qu'un seul avec sa voiture, le pilote finlandais. On n'a pas vu une seule erreur depuis le début du week-end de son côté. Après, est-ce que la Scuderia Ferrari laissera Kimi Raikkonen, entre guillemets, aller gagner ce Grand Prix? Je crois qu'ils lui doivent bien ça aussi. Maintenant, il va falloir réfléchir aussi au côté comptable, comme le disait mon papa juste avant. C'est voilà, et ça fait quand même. On est bien dans la saison aussi. On y arrive là dans le début des comptes.
Alors on va faire un saut sur la grille. Vous m'en voudrez pas. Pour une fois, on va pas dérouler de manière linéaire la première, la deuxième, la troisième ligne de la grille de départ. On va sauter beaucoup plus loin sur la septième ligne. Alors évidemment, il aura un peu plus que les 226,7 mètres. J'ai mesuré cette nuit pendant que vous dormiez ou que vous faisiez la fête. Tous les deux.
Tu nous as pas vu.
Non, je vous ai pas vu, mais enfin pas au même endroit. C'est la distance qui sépare la pole position de l'apex, comme on dit, du virage numéro 1 à Sainte-Dévote. Donc beaucoup plus loin derrière, eh bien, un certain Lewis Hamilton va s'élancer après cette totalement ratée en qualif. On va voir, il a pas vraiment le même discours que Sébastien Vettel pour expliquer cette piètre performance au micro de Louis Hamar.
The car has just been in a weird place since P2.
La voiture est bizarre depuis la deuxième séance d'essai. Je ne peux pas l'expliquer, les ingénieurs non plus. Et j'en suis dévasté parce que j'ai vraiment tout donné, j'ai attaqué, j'y ai mis tout mon cœur. Mais je ne pouvais pas faire mieux. En plus, c'est terrible d'être en fond de grille à Monaco. Si j'arrive à prendre des points, j'aurai limité les dégâts.
If I can get some points, that'll be a good damage limitation.
Alors oui, il était consterné, tellement consterné, Lewis, qu'il avait du mal à quitter le baquet de sa monoplace après cette Q2 totalement ratée.
Exactement, il est resté longtemps, de longues secondes, enfoncé dans sa monoplace, les mains jointes, le casque vissé sur la tête. On a entendu furtivement un échange radio où sa voix était à peu près aussi triste et dévastée, comme il dit que dans le son que vous avez entendu à l'instant, effectivement, Lewis Hamilton. En plus, il avait à cœur ici à Monaco d'égaler le record de pole position de son idole, Ayrton Senna. Oui. Il aurait pu succéder au palmarès au Brésilien. 65 pole positions, c'est ce que vise Lewis Hamilton. Il reste donc pour l'instant bloqué à 64. Et puis, au niveau du classement général provisoire du championnat du monde, aussi ça a son importance, parce que si les deux Ferrari, et qui plus est en plus, si Sébastien Vettel venait à l'emporter alors que Lewis Hamilton restait en dehors des points où il ne finissait que 10e, eh bien, un écart assez sérieux commencerait à se creuser. Alors évidemment, il restera beaucoup de courses pour le refaire. Il y aura encore d'autres possibilités pour Lewis Hamilton, mais il serait pour la première fois de la saison un petit peu décroché. Et puis, il serait aussi en bas taille avec son équipier Valtteri Bottas, qui a remporté un Grand Prix en Russie, et il commencerait un petit peu à y avoir le feu pour Lewis Hamilton si à nouveau le Finlandais se retrouvait bien placé, et lui non.
RMC Motors, le best-of.
Alors Patrick, on l'évoque ensemble là, régulièrement sur l'antenne de RMC, la radio de la Formule 1. La Hongrie, c'était quelque chose, tu l'as vécu, tu étais là au départ du premier Grand Prix de Hongrie, c'était en 1986 et c'était un événement considérable. Il y avait 250 à 300 000 personnes sur les collines qui entourent le circuit.
Oui, c'était à l'époque de ma fin de carrière, hein, quasiment. Et je me souviens d'une course dantesque. Hein, c'était une étuve. C'était comme courir dans un sauna. à l'intérieur d'un sauna. T'imagines la température et l'humidité qu'il peut y avoir. On était comme des poissons avec la bouche qui cherchait à gober le maximum d'air. C'était terrible.
On va écouter justement Sébastien Vettel à propos de cette pole au micro de Louis Amar.
C'était une très bonne journée. La voiture était fantastique. Elle s'est améliorée tout au long de la qualif jusqu'à la Q3. Sur ma dernière tentative, je me suis fait une petite frayeur dans le troisième secteur, mais globalement, c'était vraiment super. On a apporté quelques évolutions, des petites choses qui ne se voient pas et qu'on a testées alternativement avec Kimi pendant les séances d'essai. Toute l'équipe travaille énormément et reste très flexible pour vraiment être à notre écoute et changer les choses quand on le demande. C'est fatigant pour tout le monde, mais on aime ça. On aime ce sport et des journées comme ça le rendent très excitant.
We love racing and days like this obviously make it very enjoyable.
Ah ben oui, il y a de quoi être excité, effectivement, quand on détient la pole, et on sait que c'est l'une des clés. Je vous donne quand même la pole de Rosberg, il y a un an, 1:19.965. Je vous répète, le chrono signé Adrien, c'est impressionnant, par Vettel, 1:16.276. Il y a rarement des circuits sur lesquels, effectivement, on a gagné autant de temps. Hein.
Bah c'est effectivement l'écart dont on parlait avant la saison, avec ces nouveaux pneus, et puis cette nouvelle réglementation, ces voitures qui ont beaucoup plus d'aéro. On sait que sur ce circuit, on charge les voitures en aéro le plus possible, et puis en même temps le grip mécanique est très important, comme le disait papa, ce deuxième secteur où on doit emprunter les vibreurs et avoir une voiture parfaitement équilibrée pour faire le chrono. Aujourd'hui, enfin hier en qualif, on l'a bien vu, plus de 3 secondes plus rapide que l'année dernière. Ça va vraiment changer la vie des pilotes aussi en course, puisqu'on va être plus rapide en course. On est capable cette année d'attaquer beaucoup plus du début à la fin avec ces nouveaux pneus, et physiquement c'est un circuit très très compliqué. En plus de ça, on doit agir au niveau du différentiel, de la balance de frein plusieurs fois au niveau du volant, avec les conseils de son équipe. Donc c'est beaucoup de choses à gérer pour un pilote, et pendant 70 tours, croyez-moi, avec les marbles qui se déposent, ces dépôts de gomme au fur et à mesure de la course, une seule vraie ligne se dessine, et la moindre erreur est fatale. Donc c'est vraiment un circuit compliqué pour cet après-midi.
Ils sont 3 à se tenir en une seule victoire, en 23 points, entre Sébastien Vettel et Valtteri Bottas. Et puis il y a un autre enjeu pour Ferrari qui n'est pas du tout anodin, c'est le championnat constructeur.
Et oui.
Et dans le championnat constructeur, évidemment, les défaillances de Vettel et Raikkonen sur la fin du Grand Prix de Silverstone coûtent très très cher à la Scuderia, parce que Raikkonen ne pointe qu'en 5e position aujourd'hui du classement général provisoire des pilotes.
Après la page Formule 1 et quelques-uns des meilleurs moments de la première partie de la saison de Formule 1 que vous avez écouté sur RMC, la radio de la Formule 1, on va passer à la deuxième partie, le briefing. On parlera notamment de Grand Prix Moto, c'est sur RMC, c'est dans Motors et c'est maintenant.
RMC Motors, le best-of. RMC Motors, le best-of. Jean Lecroix.
Motors spécial, vous le savez, puisque nous sommes la veille de Noël. Noël, c'est ce soir. Le Père Noël passera, j'espère, vous apporter vos cadeaux. Nous, on passe déjà dans Motors entre 13h et 14h, vous le savez. La seule émission consacrée au sport mécanique. Après la Formule 1 et les meilleurs moments de la première partie de la saison, on en vient à la moto. Et vous le savez, il y a un pilote français qui a fait des étincelles cette saison. Il s'appelle Johan Zarco. On va l'écouter. On va écouter notamment ce qu'il pensait du Grand Prix de France qui s'annonçait très bientôt, quelques jours après ce que vous allez écouter. Et puis, on se retrouvera au Grand Prix de France avec des interventions notamment de Loris Baz, de Dominique Sarron, de Patrick Plisson, de Laurent Felon, le manager, et puis de Jacques Boll, le président de la Fédé. C'est dans Motors, c'est maintenant, c'est dans le briefing sur RMC.
RMC Motors.
Gauche 90, 150 mètres, droite 120.
Le briefing.
Il est organisateur du Grand Prix de France Moto, mais il est président du Clermont Football Club. Vous le savez, l'entraîneur, c'est une femme, et n'a pas la langue dans sa poche. On écoute Claude Michy nous parler de ce Grand Prix de France Moto qui est d'une réussite absolue.
C'est la 3e affluence mondiale, un grand événement et peu d'événements en France qui attirent 100 000 personnes, vrai, présents. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, le but, c'est toujours de satisfaire le public. C'est les acteurs qui font le spectacle, c'est les pilotes. Nous, on est là que pour organiser le théâtre et on essaye de le faire le mieux possible. Et cette année, avec cette épreuve en IRS qui va permettre à des handicapés de montrer tout ce qu'ils savent faire et qui sont des gens extraordinaires. Il y aura 30 pilotes, 9 nationalités, dont une femme, une finlandaise qui est paraplégique. Je pense que c'est aussi cette communion entre le monde des valides et des handicapés qui permet souvent les gens parlent de vivre ensemble, nous on essaye de le faire.
Et oui, c'est tout à l'honneur de la moto et de Claude Michi, l'organisateur du Grand Prix de France et de la Fédération Française de Moto et Internationale. On va y revenir à cette course, c'est exceptionnel, organisée sur le tracé du Mans dans le cadre du Grand Prix de France. Mais d'abord, on va écouter Johann Zarco. Vous le savez, Johann Zarco, double champion du monde de moto, c'est en Moto2, qui était présent sur l'antenne de RMC la journée de mercredi dernier, notamment dans le Moscato Show, le Super Moscato Show. Eh bien, on l'écoute, Zarco, au micro toujours de Maureen Lehoux, parler du Grand Prix de France moto. Qu'est-ce que c'est pour un pilote français?
Il faut que ça soit un Grand Prix comme les autres. C'est toujours plus compliqué finalement au niveau de l'emploi du temps, parce que énormément plus de choses à faire. Mais la priorité reste la performance sur la moto, donc on essaie quand même de trier au mieux cet emploi du temps, l'organiser pour mettre en avant la performance et le bien-être du pilote au moment où il monte sur la moto. Donc prendre cet événement comme un autre, et grâce aux résultats, alors il y a des personnes autour de moi pour mettre en avant le résultat, le Grand Prix de France, le côté français, et régaler tout le public qui sera là. C'est après coup qu'on s'en rend compte si émotionnellement ça nous a touché ou pas. Il y a quelque chose, conscient ou inconscient, il y a quelque chose.
Ah oui, il y aura quelque chose, effectivement. Vous le savez, Johann Zarco a intégré l'équipe française de Grand Prix, l'équipe d'Hervé Poncharal, l'équipe Tech 3 Yamaha. Et c'est ce qu'on pouvait lui souhaiter de mieux, parce que c'est vraiment une famille qu'il a rejoint naturellement avec cette équipe Tech 3. On va écouter maintenant Johann Zarco parler du manque un petit peu général, malheureusement, de reconnaissance de la moto. Mais là, s'il continue comme ça, et je vais vous parler tout à l'heure des 7 tours qu'il effectue en tête du Grand Prix du Qatar à Losail, c'était le week-end dernier, eh bien, Johann Zarco parle justement de cette reconnaissance qui manque un petit peu encore aux pilotes moto.
Je ne le vis pas mal, je trouve simplement ça dommage. Je comprends qu'après un premier titre mondial, on peut se dire, bon, il court pour ça depuis toute sa carrière, il a un titre, c'est bien pour lui. Et ça, c'est en prenant en exemple plein d'autres pilotes qui ont eu un titre. Et donc j'espérais, en renouvelant le titre, parce que d'un seul coup, c'est plus pareil. On a plus de sollicitations médiatiques, plus de pression de la part des pilotes et des journalistes, et on se met aussi une pression personnelle, une auto-pression. Et renouveler le titre, c'est compliqué. Les gens s'en doutent, parce qu'on peut le comparer à d'autres activités du quotidien. Donc pouvoir redoubler quelque chose, c'est pas facile. Et là, oui, je m'attendais à ce que non, on parle beaucoup plus de l'enjeu, et finalement de remporter cet enjeu, que ça fasse pas une explosion, mais voilà, une reconnaissance plus grosse. Finalement, ça l'a pas fait. C'est pas grave, ça me change pas ma vie. Je vis bien, je suis heureux, et ça me motive à être performant dans cette catégorie MotoGP qui, comme on l'a dit, est quand même nettement plus reconnue par le grand public. Et donc, si c'est la voie pour que le grand public regarde la moto en France, alors je me consacre à performer dans cette catégorie.
Eh oui, il est très très lucide, hein, Johann Zarco, sur sa situation. On le répète, il est déjà double champion du monde moto, mais c'était en Moto2, évidemment. Le fait d'accéder au MotoGP, c'est le pinacle du sport moto, et de mener ce premier Grand Prix. Alors on va revenir maintenant à Johann Zarco pour terminer cette émission, ce Motors spécial, parler de son début de saison formidable, avec encore une fois ses 7 tours en tête. C'était au Grand Prix du Qatar à Losail, c'était de nuit. Et évidemment, il va y repenser souvent, mais il se tourne déjà vers l'avenir. Johann Zarco, micro de Maureen Lehoux.
Beaucoup de bons souvenirs très frais, et je pense une bonne leçon pour prendre confiance, me dire si tout va bien, je peux aussi le faire. Je le faisais en Moto2 la catégorie précédente, je peux le faire aussi en MotoGP. Après, savoir quand même vite revenir les pieds sur terre, parce que mon ascension, mon temps d'apprentissage n'est pas terminé. Tout de suite après l'erreur, on ne réalise pas non plus à quel point ça pouvait être excitant et jouissif pour tous les téléspectateurs. Parce que je pensais plutôt à « mince, j'ai fait une erreur, j'ai perdu la course, j'ai perdu des points ». Et c'est après raisonnement quand même que j'en tire beaucoup plus de positif que de négatif. Le fait d'avoir mené la course, c'est plus qu'une lueur de viser le podium ou la victoire. Mais bien sûr, retourner les pieds sur terre, parce qu'on change de circuit. Chaque semaine ou tous les 15 jours, on est sur un circuit différent, à devoir adapter à nouveau son pilotage et la moto. Et ça, c'est notre part du travail, mais il faut bien accepter qu'à un moment donné, ça peut être dur et un résultat plus modeste peut être satisfaisant.
Et voilà, d'une lucidité absolue, Johan Zarco.
RMC, Motors, le best-of.
On est ici au Grand Prix de France Moto. Claude Michi nous le confirmait, largement plus de 100 000 spectateurs, peut-être entre 105 et 110 000. On va écouter Loris Baz, qui est l'un des trois pilotes français au départ de ce MotoGP, dans une grosse demi-heure maintenant, parler de cet engouement. C'est au micro de Nicolas Paolorsi. Loris Baz.
Ouais, c'est cool, les tribunes sont pleines. J'ai eu le temps de les voir en rentrant en scooter là, après ma chute. Et c'est moi, le Grand Prix de France, je me régale. C'est l'an dernier, ça s'était très mal passé pour moi. Cette année, ça se passe plutôt bien, donc je suis content. C'est toujours un beau Grand Prix. On voit qu'il y a beaucoup de monde et qu'ils sont à fond derrière nous, donc ça fait chaud au cœur.
Ça fait chaud au cœur, effectivement. Alors, je vous posais la question à tous les deux qui avaient porté les couleurs de la France en Grand Prix également. C'est une émotion particulière. Est-ce que c'est perturbant? Alors, question abrupte, allez, Dominique, on commence par toi. Est-ce que c'est perturbant, finalement, de rouler en France devant son public, devant ses amis, sa famille? Forcément, on est beaucoup plus sollicité, ou t'arrivais à te mettre dans une bulle fermée?
Non, c'est vrai que c'est un Grand Prix qui est quand même assez particulier à aborder, parce que c'est pas uniquement le jour de la course, c'est déjà les jours précédents, où on a quand même beaucoup de sollicitations, la tension, la pression monte progressivement, et quand on arrive dimanche matin, on se dit, bon, bah là, maintenant, il y a plus de choix, hein. Il va falloir y aller.
Il faut y aller.
On ne peut pas reculer, hein, de toute manière. Hein. Et comme l'a dit Claude très justement tout à l'heure, il n'y a pas de place pour les faibles à ce niveau-là. Donc c'est vrai que ça peut être une surmotivation, ce qui peut des fois avoir des incidences sur des chutes, sur des petites erreurs. Mais autrement, ça peut au contraire stimuler, essayer de se défoncer ou entre guillemets se donner à 100% vraiment pendant toute la semaine, parce qu'on a envie de faire plaisir à son public, parce qu'on est chez soi, et que de toute manière un pilote il est fait pour gagner avant tout, hein, quel que soit l'endroit et le circuit.
Il n'y a qu'une place qui est belle, hein, de toute façon. Bon, quand on est sur le podium, c'est déjà pas mal. On va écouter Patrick sur le sujet. Avant, Patrick, si tu veux bien, on va écouter Laurent Felon. C'est le manager, c'est le gourou, on peut presque dire, hein, de Johan Zarco. C'est celui qui a couvé toute sa carrière. Depuis qu'à 13 ans il s'est tourné vers la compétition moto, on va l'écouter au micro de Nicolas Paolorsi parler justement de la progression de Johan et de sa manière justement de progresser mentalement et physiquement.
Johan va pas à pas, et sûrement, puisque là au Mans, un circuit qu'il n'aimait pas, il avait fait un troisième pas, c'est comme à Jerez, ça fait les courses, donc il grandit bien. Maintenant, il faut accepter que si demain il ne fait pas un podium, que tout le monde soit content et qu'on marque des points. Parce que dans notre contrat, il est écrit premier rookie. Et finir 8e au championnat du monde, donc déjà on est dans la bonne voie, et pas vouloir sauter les étapes.
Et oui, pas vouloir sauter les étapes. Patrick, ça c'est un autre problème qu'il faut gérer également, hein, parce que on l'a dit, le fait de répéter en moto 2 pour essayer d'aligner ce deuxième trait qu'il a aligné, moi j'avoue que j'assume, à l'époque je trouvais que c'était une erreur, parce que c'est toute autre place que la première eût été un échec, et il l'a fait.
Ouais. Ah, sincèrement, moi je pensais pas que c'était une erreur, effectivement, et c'était pour passer en moto GP dans un team secondaire. Non, je pense qu'il a bien fait. Ouais. Johan, c'est vrai qu'il est magnifiquement encadré. Laurent Felon, mon copain corse, vous savez qu'il est corse. En plus, c'est pas un ancien pilote, hein. Et pourtant, il joue tous les rôles de nounou, de manager. Il est aussi en bord de piste, malgré qu'il n'ait pas été pilote. Et il a vraiment quelqu'un d'extraordinaire depuis de nombreuses années. Et il l'a déjà amené au plus haut, et il est très important pour lui, effectivement.
Très important pour lui. Allez, j'ai le plaisir d'accueillir, on est en direct live, hein, toujours dans ce studio RMC au Grand Prix de France, le président de la Fédération Française de Moto, Jacques Boll, qui lui aussi, je le rappelle à chaque fois, mais avec tellement de plaisir, Jacques, tu as été pilote de Grand Prix et tu as été vainqueur de Grand Prix, c'était en Angleterre, si mon souvenir est exact.
C'était, oui, en effet, au siècle dernier, en 1983.
On y est tous.
Oui, tout à fait. On y est tous. Alors écoute, déjà, première question toute bête, hein, devant ce succès phénoménal. Claude Michi disait tout à l'heure à ce micro que c'était sûrement la plus belle fréquentation qu'il ait jamais eu en termes de public sur le circuit du Mans pour de la moto.
Alors ça va te surprendre, mais le record du circuit Bugatti ici au Mans en matière de sport mécanique, c'est-à-dire auto et moto confondu, datait de 1977. C'était le dernier Bol d'Or organisé ici.
Ah oui.
Et bon, visiblement, vraisemblablement, ça a été battu cette année.
C'est battu. Ben, c'est un vrai plaisir pour le président de fédération que tu es. Naturellement, on sait tout le travail que la fédération mène pour déjà déceler les jeunes pilotes et pour les accompagner. On veut dire beaucoup d'entre eux, ou pour ne pas dire la totalité d'entre eux, portent l'écusson de la FFM
la
sur
totalité.
La totalité. Donc on va parler de Johan dans un instant. Tiens, Jules Danilo était là tout à l'heure. Jules qui s'est classé 7e de ce Grand Prix Moto 3, qui a connu un début de saison un petit peu difficile, mais on voyait dans son regard que là il a peut-être, ça y est, le déclic s'est peut-être produit. Hein.
Oui, enfin, en tout cas, il a fait une très belle 7e place, hein, parce qu'il était vraiment en bagarre bagarre, en bagarre devant. Bon, je crois que seule la place de premier n'était pas accessible, mais il aurait pu monter sur le podium. Donc c'est vraiment une très belle performance pour Jules, et je pense que ça va lui redonner confiance, parce que il avait un peu besoin de confiance, je crois.
Ouais, Fabio en a besoin là, lui, parce qu'on l'a vu un petit peu en difficulté. La course de Moto2 vient de se terminer. Alors ça y est, on aborde le grand sujet. Johan Zarco, bien sûr, il faut toujours un chef de file comme ça, ne serait-ce que pour le public, pour que tout le monde se fédère derrière. La moto, c'est un sport formidable. Enfin, c'est on essaie de le plaider, de le prêcher régulièrement, et y compris sur cette antenne. Là, je crois qu'aujourd'hui, c'est une démonstration, et le porte-flambeau, on l'a trouvé a priori.
Alors, avant de parler de Johan, juste un mot sur Fabio.
Oui.
Fabio, certes, c'est un cru en ce moment, c'est pas la période la plus faste. Et moi, on croit toujours beaucoup en lui. Moi, je suis persuadé que c'est un garçon qui va percer. Il va mettre peut-être un ou deux ans de plus que ce qu'on avait prévu, parce que il faut se souvenir que tout le monde pensait qu'en quelques mois,
il
allait.
Il est jeune, hein, il a 18 ans à peine. Hein.
En quelques mois, il allait monter sur les podiums. Il allait même peut-être sans doute remporter des podiums. Bon, c'est plus long, mais un jour ou l'autre, il sera là. Un jour ou l'autre, il sera sur la plus haute marche.
Eh ben, écoute, on t'écoute et on écoute ton œil d'expert et de pilote de Grand Prix que tu as été. Tiens, une petite question à ce propos. Est-ce que le fait d'avoir été pilote de Grand Prix sportif de haut niveau, c'est important pour devenir président d'une fédération ou pas?
Malheureusement, c'est pas la qualité première qu'il faut avoir. Il faut plutôt être un expert en droit du sport aujourd'hui plutôt qu'un sportif de haut niveau. Alors c'est un plus bien sûr, mais c'est pas à mon avis la qualité principale qu'il faut avoir pour être président d'une fédération.
Alors, sans faire de politique, surtout pas, c'est pas l'objet dans cette émission. On assiste à un renouvellement des cadres, on va dire un changement de ministre des sports. Est-ce qu'avec le succès absolument extraordinaire du Grand Prix de France Moto aujourd'hui, il n'y a pas meilleure manière de plaider auprès du ministère, la pratique de la moto?
Bien sûr, on va le faire, mais est-ce qu'elle y sera sensible? Moi, j'en sais rien. Hein.
Ouais.
En tout cas, bon, ce qui est certain, c'est qu'avoir plus de 100 000 spectateurs ici, c'est un plus. Et puis, avoir un Français qui est leader, enfin, parmi les leaders en MotoGP, c'est un plus, parce que c'est clair que la catégorie de référence pour tout le monde, c'est la catégorie MotoGP. Il faut rappeler que ça fait plus de 60 ans qu'un Français n'a pas remporté le Grand Prix de France dans la catégorie Rennes.
Hein. C'était Pierre Monneret. Hein,
C'était Pierre Monneret, le grand frère de Philippe, qui avait remporté ça en 54, et c'était sur le circuit de Reims, un des circuits routiers de l'époque.
Ouais. Et pareil, un pilote français vainqueur d'un Grand Prix moto de la catégorie Rennes, c'était la 500 à l'époque. Il faut remonter au siècle dernier, 99, on est bien d'accord.
Régis Laconi en Espagne, tout à fait.
Ah, c'est incroyable. Alors là, est-ce que tu y crois? Allez, je te demande un pronostic aussi. Est-ce que tu penses que Johan, monté sur le podium, oui, puisqu'il part troisième sur la grille, a priori, il peut le faire, mais est-ce qu'il peut remporter ce Grand Prix de France devant son public?
Écoutez, après le premier Grand Prix où il avait, il faut le rappeler, mené le Grand Prix pendant 6 tours,
ouais.
Je l'avais rencontré, il m'avait dit maintenant je sais que c'est possible. Parce que c'est vrai qu'au début, même champion du monde Moto2, Marquez, Rossi, Lorenzo, ça semble difficilement accessible. Dès le premier Grand Prix, il était avec eux, il était devant eux. Donc aujourd'hui, il y croit. Et moi, je pense qu'on peut parier sur lui.
C'est possible. J'imagine qu'évidemment, tu as eu l'occasion, même si c'est brièvement, de le voir. Moi, je l'ai croisé hier. On va pas en dire plus. Justement, après les qualifs, après la conf de presse, il avait déjà le regard ailleurs. C'est vraiment incroyable. Et on en parlait tout à l'heure avec Claude, on en parlait avec Jules. C'est vrai qu'un champion, ça se reconnaît à ça aussi.
Notamment. Mais enfin bon, Laurent Felon souhaite le préserver justement, parce que le problème d'un Grand Prix national, c'est que vous avez des milliers de personnes qui aimeraient vous rencontrer, qui aimeraient discuter avec vous, qui aimeraient vous saluer. Donc Laurent le préserve au maximum, et moi je pense que c'est une bonne chose. Je pense d'ailleurs, bon, il faut reconnaître que la méthode de Laurent, même si elle a été décriée au début, ben, ça donne des résultats, donc aujourd'hui on peut que les féliciter tous les deux.
Un dernier mot, Jacques Boll, président de la Fédération Française de Moto, parce que je vais te libérer, je sais que tu as attendu sur la grille de départ du MotoGP, le départ c'est dans presque 25 minutes maintenant. Un dernier mot sur la Fédération Moto qui connaît beaucoup de succès dans plein de disciplines différentes. Hein. C'est une des fédérations françaises les plus successful, j'allais dire, qui a le plus de succès dans les différentes disciplines.
C'est vrai, parce que bon, aujourd'hui on parle beaucoup de vitesse ici au Mans, mais c'est également, il faut savoir qu'on remporte également des grands prix en motocross, en enduro, dans de nombreuses disciplines. Et c'est vrai qu'on est, d'ailleurs, le ranking que peut faire la Fédération Internationale nous classe tout le temps premier ou deuxième, hein, bon, on est en bagarre souvent avec les Italiens, sur l'ensemble des disciplines, parce qu'il n'y a pas que la vitesse, même si c'est la discipline la plus médiatique, bien évidemment.
Merci beaucoup, Jacques Boll, président de la Fédération Française de Moto. On va te laisser regagner la grille de départ où, effectivement, allez certainement saluer Johan Zarco sur cette grille de départ. Merci beaucoup, Jacques. Nicolas Paolorsi va me rejoindre. Patrick Plisson est toujours avec moi. Tiens, je vous propose maintenant d'écouter peut-être le son de Laurent Felon, puisqu'on en a parlé il y a un instant. Laurent Felon, donc, c'est le gourou. Hein, c'est vraiment, c'est plus que le manager de Johan Zarco. Nicolas Paolorsi l'a rencontré hier et il nous a parlé de un petit peu la carrière et le parcours de Johan Zarco au micro de Nicolas Paolorsi par Laurent Felon, son manager.
Il a attaqué la moto à 13 ans, il a 26 ans.
d'être deux fois champion du monde, ça lui a servi. Après, il y a une continuité. Nous, on se connaît, je le connais depuis l'âge de 13 ans. Et je sais un peu son caractère. Il mûrit, il grandit. Et voilà, c'est comme tout homme. Hein. C'est comme une plante, un paysan qui met une graine, qui l'arrose et qui grandit. Après, il y a belle fleur. Ben, c'est exactement ça. Maintenant, ben, c'est très beau, surtout pour le sport en moto en France. Ça peut ouvrir des portes à plein de gens et surtout donner la passion de la moto.
Et Johan Zarco, une belle plante, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, par le jardinier qu'il a entretenu et qu'il a fait se développer, si vous me pardonnez cette allégorie. On est toujours au Mans, au Grand Prix Moto avec... Patrick, un mot, Patrick Plisson.
Et dans sa plante, il y a du soleil, vous avez entendu son accent?
Ah oui, il y a du soleil, c'est, le soleil du midi.
On a parlé tellement de cette motivation, cette pression au Grand Prix de France, etc. C'est compliqué, on se pose de plus en plus de questions. Et souvent, on résout ça par une seule phrase qu'on retrouve toujours depuis longtemps, longtemps. Vous savez, c'est le « Allez, fais-toi plaisir
ouais, ».
On efface tout ça parce que c'est tellement compliqué.
Faut oublier l'enjeu.
On ne trouve pas de solution. Donc souvent, dans tous les sports, même beaucoup d'endroits, au final, allez, fais-toi plaisir, lâche-toi et puis... On oublie toutes les questions et les réponses, parce qu'on ne les trouve pas, les réponses.
Vous êtes bien dans Motors, le spécial Noël. Et oui, nous sommes toujours là, évidemment, en ce 24 décembre. Espérons que le Père Noël sera sympa avec vous. Après les Grands Prix Moto, on va parler d'un autre championnat dans un instant qu'on a suivi naturellement sur RMC de très près. Il s'agit du championnat du monde des rallyes.
RMC Motors, le best-of. RMC Motors. Le best-of, Jean-Luc Roy.
Voilà, vous êtes toujours dans Motors, le moteur spécial Noël. C'est le best-of avec les meilleurs moments après la Formule 1, bien sûr. RMC, vous le savez, c'est la radio de la Formule 1. Vous suivez tous les Grands Prix en direct. Après les Grands Prix moto auxquels on s'intéresse de près, avec notamment les exploits de Johan Zarco. On va maintenant parler d'autres exploits, d'autres pilotes français, d'un équipage français, faut-il dire. Il s'agit de Sébastien Ogier et Julien Ingrassia. On les retrouve tout de suite. C'était avec Patrick Rivet. C'était pendant le mois d'août. Et on aborde évidemment la troisième partie de ce Motors.
RMC Motors.
Gauche 90, 150 mètres, droite 320.
Le briefing.
C'est une tradition depuis 2013. Sébastien Ogier sur notre antenne ici pendant le mois d'août. Bonjour Sébastien.
Bonjour, salut à tous.
Merci de nous rejoindre sur l'antenne d'RMC. Avec ma première question, si tu veux bien, elle va concerner Julien Ingrassia, ton coéquipier secoué, blessé, enfin plutôt secoué après l'accident qui vous est arrivé lors du récent rallye de Finlande. Bah, tout simplement, je vais te demander des nouvelles de Julien.
Oui, alors oui, heureusement c'était secoué, effectivement, pas blessé réellement, rien de très grave, mais c'est sûr que ça a été un choc quand même qu'il fallait encaisser. Et il lui a fallu quelques jours pour se remettre, mais non, il a repris tous ses moyens et ça fait partie du passé maintenant, les petites douleurs en tout cas, ou les petits symptômes qu'il a pu avoir après l'accident.
Quand on regarde quand même le bilan de cette saison jusqu'à maintenant, il avait débuté d'une façon absolument incroyable avec la victoire au Monte-Carlo, qui a été suivie ensuite par une deuxième victoire au Portugal. D'entrée, on s'était rendu compte d'entrée que l'un des pilotes qui pouvait se mesurer à toi sur cette saison se nomme Thierry Neuville, qui est désormais à égalité de points avec toi, mais avec 3 victoires à 2 en tête de ce championnat. Est-ce que le début de saison, durant lequel il a commis quelques erreurs, nous a donné une image un peu tronquée de ce qu'est la réelle bagarre sur le terrain entre toi et les autres?
Bon, alors là, il s'avère qu'aujourd'hui, effectivement, c'est Thierry le concurrent numéro un. Maintenant, il y en a d'autres dans le championnat capables d'aller très vite et chaque équipe performe plutôt bien cette année. Donc, c'était difficile de savoir dès le début. Après, une fois de plus, le règlement actuel, de toute façon, favorise le retour de quelqu'un qui est mal parti dans le championnat, puisque depuis le début de l'année, justement, et depuis après les deux premiers rallyes où il a fait des erreurs, il s'est retrouvé loin au championnat et a bénéficié de bonnes positions sur la route, sur la terre, pour se refaire, et il a bien réussi à le faire. Donc maintenant, c'est pour ça que c'est un championnat où, même si ça commence mal, il y a toujours de bonnes chances de se refaire. Maintenant, voilà, il en reste une fois de plus, il en reste 4 où le prochain, c'est de l'asphalte, où on va plus parler de balayage, et pour être honnête, ça fait du bien. Ensuite, il y aura aussi l'Espagne où ça va balayer le premier jour, mais ensuite deux jours d'asphalte, le rack où là, ça sera pas un problème de partir devant, normalement même un avantage. Maintenant, si ça doit jouer jusqu'au bout, par contre, en Australie, là, c'est sûr que ça risque d'être à la fois une fois de plus compliqué. Alors, je sais pas qui sera devant à ce moment-là, mais c'est sûr que le rallye d'Australie, c'est un rallye un des pires au niveau du balayage. Donc, celui qui partira devant en Australie va certainement galérer. Donc, vaut mieux pour lui qu'il ait un peu d'avance au championnat s'il veut rester devant à l'issue du rallye.
Pas question d'avoir une sorte de ligne un peu stratégique qui ferait que surtout, il faut surtout pas arriver en tête en Australie. On n'en est pas là. Tous les points, tu le dis toujours, hein, tout point est bon à prendre.
Oui, exactement. Je pense que faire des calculs comme ça, c'est toujours très risqué. Donc, c'est sûr qu'il faut donner toujours le maximum, essayer de choper le maximum de points quand c'est possible. Maintenant, c'est vrai que moi, ma vision sur ce fameux ordre de départ, elle a pas changé. Hein. C'est toujours pour moi un petit peu dommage que ce soit comme ça, d'autant plus à l'heure actuelle où il y a quatre équipes qui sont capables de gagner des courses, qui l'ont prouvé cette année, avec beaucoup de pilotes rapides, des jeunes. Plus en plus de jeunes qui poussent fort, et on a vu au dernier rallye en Finlande, donc c'est un petit peu dommage, mais bon, ça c'est pas nouveau, hein. Ça fait des années que ça dure maintenant, et on fait avec.
Aujourd'hui, ce cinquième titre, tu y tiens beaucoup, et l'avenir, quel peut être l'avenir de Sébastien Ogier?
C'est une bonne question. j'ai pas beaucoup de choses à vous annoncer aujourd'hui, ça c'est sûr. Maintenant, oui, effectivement, que ce cinquième titre, on va rien lâcher. Ça va se jouer sur les quatre dernières courses. Comme je disais tout à l'heure, c'est beau qu'on soit toujours en course avec la seule équipe privée du championnat pour le faire. Et c'est sûr que, on est content de ça. Maintenant, être capable d'être en course pour le titre, c'est bien, mais ça sert à rien. Il faut être capable de gagner pour que ça soit une belle, une belle saison.
RMC Motors, le best-of.
Ça y est, ça vient de tomber. Cinquième titre de champion du monde pour Sébastien Ogier. Yeah,
il devait prendre un point lors de la Power Stage, dernière spéciale du rallye de Grande-Bretagne. En la terminant à la quatrième place, Sébastien Ogier est devenu champion du monde des rallyes à une course de la fin du championnat.
Penser qu'un jour il viendrait champion du monde, non. En fait, sachant en plus que nous, on est quand même d'une famille, on va dire, modeste. Et c'est par sa persévérance, par sa... Bon, c'est un bâtard, hein, un gagneur.
Avec désormais 5 titres de champion du monde au palmarès, Sébastien Ogier devient le deuxième pilote rallye le plus récompensé de l'histoire.
Ouf, c'est moi le roi de la route.
Alors Sébastien, tu as reconnu la voix de ta maman qui était là, qui a témoigné à notre micro pour célébrer en quelque sorte aussi ton titre. C'est important pour toi cette présence un peu familiale autour?
Ouais, bien sûr. Ma mère en particulier, mon père aussi ont toujours été là la plupart du temps sur les rallyes européens, et c'est vrai que c'est depuis le début de ma carrière mes supporters numéro un, on va dire. Et même si elle vit des moments difficiles les week-ends de course, parce que c'est sûr que la pression, la peur qu'il m'arrive quelque chose est toujours omniprésente, mais c'est sûr qu'elle apprécie aussi, elle savoure ses victoires, et c'est un petit peu les leurs aussi, parce que comme je l'ai dit, ils m'ont toujours supporté depuis que je suis né, je vais dire.
Patrick Rivet est donc avec nous, il a tenu à être là,
bien
Patrick,
sûr,
hein, pour
te poser quelques déjà questions. Pour une raison très simple, c'est que j'étais au Pays de Galles aussi pour Motorsport TV. Ensuite, au mois d'août, on avait eu une petite conversation sur cette même antenne tous les deux, et tu m'avais dit, eh bien, on se retrouvera pour le cinquième. Mais merci d'avoir tenu parole. Déjà, c'est fabuleux d'avoir pu le faire. Moi, je vais revenir aussi sur cette arrivée, justement, où il y avait ton père, il y avait ta mère, et surtout, il y a eu des larmes aussi. Et elles ont marqué un petit peu tout le monde autour de la voiture, ces larmes, parce que, quelque part, tu nous avais pas donné cette habitude-là. Il y avait déjà eu 4 titres, et on a l'impression que celui qui t'a procuré le plus d'émotion, ça a été celui-ci.
Ouais, c'est toujours difficile à décrire. Comme je disais, après l'arrivée, les émotions, c'est quelque chose qui se contrôle pas vraiment, et c'est vrai que sur le coup, là, j'ai eu les larmes beaucoup plus que d'habitude qui me sont venues, et quelque part, ça me rend heureux de voir que l'émotion était débordante à ce moment-là. L'intensité peut-être de la saison qui a fait que on va dire l'issue du championnat était un petit peu plus incertaine que les saisons précédentes, donc je sais pas, c'est peut-être pour ça que sur le moment j'ai été plus émotif. Après, je pense que les saisons précédentes j'étais aussi heureux d'avoir le titre, mais peut-être que finalement je m'y attendais un petit peu plus, on va dire, parce que la marge au championnat était plus grande, donc du coup l'émotion était peut-être un peu plus étalée dans le temps, alors que là elle arrivait un petit peu plus d'un coup.
Moi, je défends aussi complètement l'idée, mon cher Seb, que ton titre, c'est peut-être le plus beau, parce que quand je revois tes stats, oui, en 2013, ton premier titre, tu gagnes 9 rallyes sur 13. Bon, là, il n'y a rien à dire, ok, c'est Dominator, t'as écrasé la concurrence. Mais aujourd'hui, quand je constate que tu n'en gagnes que, je mets ça entre guillemets,
oui,
bien sûr,
bien d'accord, hein,
que deux, ouais, et que tu es malgré tout champion du monde,
mais
à une manche de la
fin,
parce que n'oublions pas qu'il y a l'Australie là dans 15 jours. Bon, ben moi je dis que c'est encore plus fort peut-être. Je te le dis franchement.
Non, mais en plus je pense qu'on vient d'assister à un des championnats les plus disputés de l'histoire du WRC, j'ai envie de dire. En tout cas,
ça fait très longtemps qu'il n'y avait pas eu 7 vainqueurs.
Des années 2000, je pense que il y a rarement eu autant de vainqueurs différents, autant d'équipes capables de gagner. Les 4 équipes présentes dans le championnat ont gagné au minimum 2 courses, ce qui prouve bien que c'était un championnat très ouvert et qu'il fallait rien lâcher. Je pense que les fans ont apprécié, parce qu'il y a souvent eu des batailles très très intenses, coup de dixième à coup de seconde, et tant mieux pour le sport. Et c'est sûr que pour nous, sortir vainqueur d'une telle bataille, c'est toujours très très satisfaisant.
RMC Motors, le best-of.
Tout de suite, on va accueillir un champion du monde des rallyes, le copilote de Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, qui est avec nous sur RMC. Salut Julien.
Salut à tous.
Donc ça y est, c'est tombé cette semaine. Sébastien Ogier et toi-même, hein, son fidèle copilote, vous enchaînez bien avec une saison 2018, toujours au sein de cette équipe anglaise M-Sport, et toujours donc avec une Ford Fiesta comme voiture. Julien, j'ose dire que tu nous as quand même, et vous nous avez fait un petit peu peur. Moi, je commençais franchement à m'inquiéter. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire dans les coulisses? Est-ce qu'on a eu raison de s'inquiéter ou pas?
Ce qui est sûr, c'est que sur la fin, c'était pas du tout mon game plan, on va dire ça comme ça, quoi, ni celui de Seb, évidemment, mais sur la fin, je pense qu'on a un peu joué de ce suspense comme ça, là, qu'on a entretenu un peu malgré nous au début, puis à la fin, j'en jouais un peu, je faisais exprès de lâcher des petits mots un peu insidieux, et je voyais bien que les gens vraiment doutaient,
c'est
ce qu'on ferait dans l'an prochain.
Ah, dis donc, d'accord.
C'était mon petit jeu, voilà, pour être très honnête avec vous, mais sinon, ça fait vraiment que quelques semaines qu'avec Seb, on avait de toute manière pris la décision de continuer. On devait réunir certains éléments de notre côté pour valider ce fait-là, qu'on voulait continuer avec M-Sport. Et Seb a déjà donné pas mal d'interviews par rapport à ça, en disant que ça aurait été dommage. On a gagné l'an passé avec eux, on a construit une relation forte. Et puis on le sait, quand on rallye, c'est très compliqué d'instaurer un lien de confiance, des automatismes de travail. Donc on a gagné l'an prochain, ça aurait été dommage de quitter une écurie avec laquelle on gagne en plein cours. Donc ouais, très très content de poursuivre l'aventure. On se doute que l'an prochain ça va pas forcément être facile. Pas moins que cette année en tout cas. Et puis on va mettre les bouchées doubles. On était la semaine passée en Angleterre, au nord de Manchester, au siège de l'écurie M-Sport, et puis on a célébré ça, et on était une journée là-bas sur place, et le soir même, on était déjà en train de faire un débriefing avec l'ensemble des ingénieurs de l'usine.
Et voilà, vous avez écouté Sébastien Ogier, donc 5e titre de champion du monde pour lui et pour Julien Ingrassia, qui était avec LFB dans cette émission au mois de décembre et qui confirmait le choix de l'équipage français de rester au sein de cette équipe Ford pour la saison 2018, peut-être pour un 6e titre. Voilà, c'était un plaisir de vous retrouver pour ce best-of de Motors qui ne s'arrête pas. On se retrouve la semaine prochaine, le 31 décembre, à la fin de l'année, pour un best-of spécial. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Motors sur RMC. Salut.
RMC Motors, le best-of.